Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'association À Vue de Truffe, l'école de chiens guides de Caen-Normandie à Mondeville. Le but de ce podcast, c'est de présenter aux auditeurs la vie, les actions de plusieurs personnes, aux expériences et aux parcours de vie différents des personnes confrontées chaque jour à la question du handicap visuel. Plus largement, au fil des épisodes, nous pourrons aborder notamment les sujets de l'autonomie, de l'accessibilité, de l'insertion professionnelle et de la vie en société. Et pour ce deuxième épisode, qui sera divisé en deux parties, nous recevons notre collègue Marc Blondeau, éducateur de chiens guides. Bonjour Marc.
Bonjour.
Donc Marc, tu as rejoint notre équipe à Vue de Truffe en septembre 2023.
Tout à fait.
Et donc, comme on le disait dans le préambule, en fait, tu es éducateur de chiens guides depuis 1989, je crois.
J'ai démarré à Paris, effectivement, à la fin des années 80. Longue carrière au chien guide de Paris pendant plus de 25 ans. Ensuite, un passage par les chiens guides de Lyon. Un retour en Ile-de-France à l'école vétérinaire d'Alfort, où avec le programme de Mosaïs, on travaillait sur l'olfaction canine pour à détecter les maladies humaines. Donc, entre autres, on était sur des programmes autour de la Covid, puisque c'était malheureusement le sujet du moment. Plus d'autres types d'entraînement autour du cancer de la prostate. Et puis voilà, aujourd'hui l'équipe est sur d'autres projets tels que Parkinson. Les qualités olfactives des chiens ne sont pas à démontrer, puisqu'ils étaient déjà dans la drogue, dans la recherche d'explosifs, etc., dans les aéroports. Même si nous, pour en revenir à notre sujet, en tant que chien guide, on n'est pas hyper fan de chiens renifleurs. Ouais. Donc voilà, les qualités de l'animal pour certaines missions sont bien. Pour nous, on a besoin d'avoir des chiens disponibles avec un beau paire de tête pour l'éducation du chien guide et le déplacement.
Et comment toi, tu as eu l'idée de devenir éducateur de chien guide, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui nous demandent, dans des demandes de stage ou sur les stands, etc., qui nous demandent comment on devient éducateur de chien guide.
Pour ma part, très clairement, c'est une histoire de hasard et d'intérêt dans un second temps uniquement, parce que clairement, les orientateurs de l'époque, que ce soit au collège ou au lycée, évoquaient pas l'éducateur de chien guide. C'était un métier de niche, sans mauvais jeu de mots. On était à l'époque quelques-uns. Il n'y avait pas autant d'écoles qu'aujourd'hui, pas autant d'éducateurs dans les structures. Donc non, ça sortait pas. Donc moi, j'ai eu une évolution carrière sociale lorsque j'étais sur Bordeaux. Et j'étais abonné aux ASH, qui existent encore aujourd'hui, Actualité sociale hebdomadaire,
d'accord,
qui recensait les offres d'emploi dans le paramédical, dans le social, que ce soit éducateur spécialisé, animateur pour différentes structures. L'école de Paris a passé une annonce sur les ASH, et donc je suis monté en Ile-de-France pour ce recrutement-là, et puis un autre recrutement d'animateur pour une structure de gens avec un passif juridique, judiciaire, et qui donc était en foyer le soir, travaux d'intérêt généraux, etc. Donc voilà. Et c'est quand on... Enfin, pour ma part, c'est quand j'ai démarré, que j'ai fait ma période d'essai de 15 jours, où je me sentais bien, en fait, tout simplement, quoi. Je trouvais que... Il y a toujours eu des chiens à la maison, mais peu pour le travail. Mon père travaillait un petit peu avec un berger belge il y a longtemps, mais comme plein de gamins, c'était un grand frère pour moi. En évoluant, d'où l'intérêt, on en parlera aussi, des sensibilisations vers les jeunes générations, de notre message pour qu'ils puissent les toucher à leur niveau. Et c'est là que j'ai découvert que, oui, l'animal, l'apport qu'il peut avoir pour une personne en situation de handicap, c'était vraiment un complément assez incroyable. Et puis, mais c'est que le début, hein, parce qu'on découvre, c'est un métier qu'on découvre en permanence, qui fait tout le temps réfléchir. Hein, et c'est ce qui est bien, en fait. Pour moi, il n'y a pas de routine.
Oui, ce qui est bien, c'est que c'est ce qu'on entend souvent, c'est que on dit pour être éducateur de chien guide, faut aimer les chiens, mais il faut aussi aimer les gens, parce qu'il y a toute une portée sociale sur le, sur le travail, l'accompagnement d'une personne. Il y a, j'imagine, de toute façon, on peut le constater au quotidien au niveau David Truffe. Puis je pense que dans les autres écoles, c'est pareil, c'est qu'il y a des profils de personnes qui font des demandes de chien guide qui sont tellement différents qu'au final, c'est du cas par cas, on fait du cas par cas.
Et moi, c'est vraiment la personne qui m'a motivé au départ. Parce qu'évidemment, aimer les chiens, ça paraît presque simple, naturel. Mais si on n'a pas le concept de l'utilité, et c'est aussi le message avec Nathanaël qu'on essaie de faire passer, Virginie également, hein, bien sûr, pour les familles d'accompagnement. Et ce n'est pas simple qu'ils arrivent à se projeter, de leur donner des exemples concrets de pourquoi on fait ça si jeune. Parce que avec la personne, si le chien il est couché n'importe où dans l'appartement, on peut tomber sur lui, donc il faut qu'il se déplace. Pourquoi est-ce que on peut pas trop de reniflement, on en a parlé, pourquoi est-ce qu'on veut pas trop que ça tire en laisse, pourquoi la relation avec les autres congénères est importante. Oui, bah parce qu'on va avoir une personne qui n'a pas d'anticipation visuelle plus tard, donc il faut quand même des chiens, encore une fois, en termes d'équilibre, qui soient le mieux possible. Ça reste un animal, donc il faut accepter un certain mouvement, mais pas d'extrême. On a besoin de chiens qui soient presque faits pour ça, en tout cas, qui aient les bonnes aptitudes déjà en termes de comportement. Après, ta question de départ, c'était sur les jeunes qui veulent faire ce métier. Même aujourd'hui, je pense que ça reste difficile. Les places sont pas hyper nombreuses.
Ouais.
Voilà, faut pas oublier que c'est un métier exigeant, hein. C'est un métier physique. On est dehors pas mal d'heures par semaine, par tous les temps. Voilà, les chiens ne pensent pas toujours à nous dans le sens où on a plus 20 ans, on est peut-être fatigué. Donc. Eux s'en fichent.
Même les éducateurs, là, donc à Vue Truffe, il y a 4 éducateurs, Stéphane, toi, Virginie, Nathanaël.
Oui.
Et en fait, vous avez tous vos manières différentes de travailler, votre rythme de marche aussi, des déplacements différents.
Oui, bien sûr, on a nos spécificités. Après, on se retrouve sur quand même des grandes lignes. Parce que le rythme, bien sûr, c'est déjà un indicateur de ce qui se passe au niveau de l'environnement autour. Hein. Donc, traverser une rue et puis marcher sur un trottoir où il y a zéro obstacle, avec un trottoir large, ça ne peut pas être la même chose. Donc, il faut quand même qu'on amène nos chiens à une certaine vigilance. Bah, s'il y a des obstacles, s'il y a de la foule, si c'est plus étroit, si c'est plus etc. Ce sont déjà des indicateurs avant un arrêt complet, un chien qui s'assied, parce que vraiment là c'est complexe et il a besoin de nous avertir de ça. Donc il y a dans cette communication non verbale, parce que jusqu'à présent il ne s'exprime pas, même si tout le monde beaucoup aimerait, il doit nous envoyer plein d'infos en fait, et le déficient visuel plus tard doit ressentir ça, et à nous aussi de l'éduquer à comprendre ça.
Et quand on part de la base du coup du chiot à l'élevage, comment vous faites une sélection de chiots
C'est Stéphane souvent qui va les chercher, qui travaille maintenant avec des éleveurs qui connaissent nos exigences, nos particularités. Pour en avoir parlé avec différents sélectionneurs, même sur d'autres métiers canins, on en a parlé encore avec Virginie il n'y a pas si longtemps. On ne prendra pas évidemment des chiots un peu entre guillemets extrêmes. Ça veut dire quoi extrême? Très peureux par exemple, ou qui ne viennent pas au contact, ou trop excessifs, trop excités, trop. Voilà, on a besoin d'une certaine stabilité, mais. Mais lorsqu'on va aller chercher à 10 semaines, ça reste, il y a une partie aléatoire, parce qu'on ne connaît bien sûr pas son développement futur, l'environnement qu'il va devoir affronter, entre guillemets. Ça reste une matière vivante. Mais après, et c'est pour ça qu'on accompagne nos familles, et dans ce sens-là, on leur dit aussi qu'elles vivent, elles font de leur mieux, on leur donne un maximum de conseils pour que ce soit agréable pour tout le monde, parce que l'intérêt de l'association des familles, c'est aussi d'arriver à fidéliser quand même un maximum de personnes, pour qu'elles reprennent un show plus tard, qu'on n'ait pas à redistribuer nos conseils, mais par expérience, il y a des gens qui peuvent enchaîner les chiots, penser qu'ils sont dans la réussite parce qu'il y en a 3-4 qui sortent, et puis le cinquième, on va le réformer. Et les gens ne sont pas devenus différents, ils sont pas, au contraire, ils ont plutôt plus d'expérience. Donc ils peuvent a priori mieux lire l'animal, mais l'imprévu, de par sa définition, il n'envoie pas de message avant pour dire attention, il va y avoir un gros bruit. Donc voilà. Donc c'est pour ça que l'humain fait de son mieux à côté, mais il y a une sensibilité, et c'est même rien à voir entre mâle et femelle, hein, parce qu'on peut avoir des mâles plus sensibles que certaines femelles qui finalement résistent bien, donc voilà. Donc pas de choses comme ça, hein. On évolue, on est toujours en recherche de familles d'accompagnement, parce qu'on peut avoir aussi des familles qui partent en congé, qui ont besoin d'être relayées. C'est un investissement important. Faut pas se cacher ça. Hein. Merci à elles d'être à nos côtés, parce que c'est pas simple forcément d'accueillir un jeune chiot à la maison.
Et puis c'est finalement une aventure qui dure finalement plus que l'accueil du chiot, parce que il y a toute la partie. On fait partie d'un projet d'attribution d'un chien guide à une personne malvoyante ou non-voyante. Ça va être l'écriture un peu d'une page avec le projet de la personne qui va avoir sa vie un peu chamboulée par l'arrivée du chien, le développement un peu de sa mobilité, retour un peu de l'autonomie. C'est un travail d'association en fait avec les éducateurs, avec les familles, parce qu'on parle aussi du coup de la formation du chiot, mais on parle aussi de la formation de la famille d'accompagnement.
Enfin, on en parle régulièrement et on essaie d'avoir des stages aussi où les chiots viennent ici plusieurs jours de suite pour qu'on ait un petit peu de recul sur leur évolution, de faire des journées collectives, parce que c'est intéressant aussi, important qu'il y ait une sorte de solidarité entre les familles. Et quand on parle de famille, c'est vraiment le foyer, hein, tous ceux qui vivent avec l'animal. Donc on parle aussi des enfants et on peut encore évoquer le discours qu'on peut avoir des enfants. C'est pas, il faut essayer de s'adapter aussi à cette population-là qui s'occupe du chien, qui à un moment donné c'est bien quand même d'avoir un référent dans le foyer pour que le jeune sache un petit peu vers qui aller, qu'il y ait des moments de jeu, effectivement. Mais voilà, il y a toujours besoin d'un cadre. C'est pas négatif de dire ça, c'est plutôt confortable en fait pour tout le monde. Et on le voit bien lorsqu'on a justement des chiots bien installés au niveau d'un foyer, finalement tout le monde est plutôt paisible. Il a ses moments de folie, la détente, on pourrait aussi en parler parce que ça peut être une problématique pour les déficients visuels plus tard, parce qu'on parle de. Entre guillemets, chien de travail. Moi, j'aime bien le terme chien d'utilité, c'est-à-dire de proximité. J'ai pas de problème avec le terme travail. Il faut pas voir les mots avec des connotations spécifiques. En tout cas, c'est un binôme qui doit évoluer dans un environnement, mais l'animal a aussi besoin de ces moments de détente. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet aussi de l'accueil. De l'animal dans l'urbain, quoi. Est-ce qu'on a encore réussi aujourd'hui? Pas certain. On pourrait aussi évoquer les familles qui amènent le chien au travail. Et là, il y a un vrai sujet aussi. Parce que nous, qui sommes aussi à la recherche de partenaires et qui souhaitons plus de visibilité en termes de territoire, mais c'est une porte qui s'ouvre vers des entreprises, vers des collectivités publiques également pour l'accueil d'un chiot. C'est faisable, on est là aussi pour accompagner et finalement c'est assez bénéfique pour pas mal de gens.
Parce que justement, tu as récemment en fait, fait du suivi avec des chiots dans le cadre professionnel de la famille. Donc tu t'es rendu dans leur bureau, dans leur sphère professionnelle. Ouais. Et comment tu as perçu justement cette, l'accueil du chiot dans le milieu professionnel, avec les collègues, avec la hiérarchie, comment ça s'est passé par rapport à ces familles et à ces chiots-là?
Bah, visiblement, ça s'est très bien passé. Le chiot, c'est un peu la, la coqueluche, qui est plus tout, tout petit maintenant. Hein. Mais c'est un peu la star de l'endroit. Alors, il faut faire attention aussi que la star ne soit pas... On parlait tout à l'heure de référent. Ce ne soit pas la star du hangar, la star de l'étage, avec un animal qui se balade un peu partout. Enfin, voilà. Il y a des moments où il faut gérer et on ne peut pas non plus tout autoriser. Mais en tout cas, ça se passe bien. Donc, c'est bien la preuve qu'on peut les intégrer facilement. On trouve ça, nous, ici, vraiment très bien dans tous les sens. C'est-à-dire que ça donne un rythme à l'animal aussi. Je pars avec la famille, je vais au travail, je rencontre d'autres personnes. Parfois, j'y vais en voiture, parfois en transport en commun. On a eu des chiens au Café des Images. On a des chiens dans des usines, comme hier, aux finances publiques à Caen. Bon, donc, ça devient des partenaires... naturel et c'est très bien en fait.
Et c'est de la sensibilisation
et puis c'est
aussi de...
globalement ce qu'ils peuvent vivre plus tard de toute façon.
Oui.
Donc c'est l'idéal, ça amène beaucoup de stimulation, beaucoup d'expérience. Voilà, et encore une fois, l'animal il en fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. À certains moments, il ne va pas se sentir peut-être très bien, mais si ça devient une habitude, ça passera mieux. Quoi. En tout cas, personne n'a d'intérêt à le maintenir isolé. Donc on se méfie un petit peu de ça. On est quand même avec de la ruralité autour de nous. On a pas de problème avec ça, simplement. On est sur d'autres stimulations. Il faut faire attention aussi que les familles n'hésitent pas... lorsqu'il est jeune, à amener de l'expérience, à amener des nouveautés, voilà, il y a tout ce qui se passe à la maison, dans les environs proches, mais voilà. Parce qu'on se rend compte quand même que tout ça a plutôt, toutes les différentes expériences ont plutôt tendance à le construire positivement, dans le sens où il va trouver des réponses pour être bien dans ces situations-là, et voilà, c'est constructif, quoi.
J'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu évoquais justement la nécessité pour les familles en fait d'emmener beaucoup le chien, que ce soit au travail ou même dans les loisirs, dans les centres commerciaux, les lieux publics, etc., pour que le chiot soit
stimulé
et qu'il puisse découvrir, être habitué à ce type d'environnement.
Absolument.
Pour son futur métier. On sait qu'à Vutruf, en fait, en novembre 2022, a eu la labellisation de la part de la préfecture du Calvados, et cette labellisation, en fait, elle atteste que on répond bien aux critères qui ont été définis par le code de l'action sociale et des familles, qu'il y a une vraie compétence au niveau de l'équipe éducative et au niveau de l'association par rapport à la prise en charge des chiens, de l'éducation des chiens guides et de la prise en charge des personnes.
Clairement. Et puis le suivi qu'on effectue, parce que c'est un accompagnement un peu permanent selon les situations. Il faut saluer aussi nos partenaires. Hein. Je pense à Keolis, qui est devenu maintenant RATP Dev, qui nous a octroyé des cartes pour aller dans les transports publics sur Caen-la-Mer. Parce qu'on prépare le futur de ce chien-là, ne sachant pas ce qu'il sera vraiment. C'est-à-dire que un maître de chien guide, il peut aller dans une crèche chercher son enfant, aller à la boulangerie chercher une baguette de pain, mais le soir être à la piscine parce qu'il a envie de nager. Et à chaque fois, le chien est là. Donc, on en fait quoi? On le met où? Mais dans un premier temps, ce sont des réalités administratives, mais aussi clairement pédagogiques pour nous, d'être bien dans tous ces environnements-là, de les connaître et de ne pas tous les courir avec le déficient visuel. Parce qu'ensuite, bien sûr, il y aura l'éducation au harnais. On l'évoquera plus tard. Mais ça, c'est nécessaire, puisqu'on l'a dit tout à l'heure aussi. C'est lorsque le chiot est jeune, c'est plus facile pour lui. Il est cognitivement plus malléable, en fait, pour accepter ce type d'environnement varié, avec des odeurs différentes, du bruit, des gens ou pas de gens, du vent dans les toiles. Enfin, il y a des tas de, voilà, des tas de situations. Et donc, cette labellisation, cette validation des compétences de l'asso, elle est nécessaire. Les chiots sont reconnaissables très clairement avec un body futur chien guide. Les familles ont un contrat qu'elles ont toujours sur elles.
Une attestation qui est délivrée par l'école en cas de contrôle. Parce qu'après, au niveau des établissements, forcément, il peut y avoir de la méconnaissance. Et on en parlera tout à l'heure justement de ce besoin de sensibilisation. Mais il peut y avoir une méconnaissance. Après, justement, voilà, c'est des documents qui permettent d'attester que c'est un futur chien guide, qu'il a ce besoin en fait d'accès parce que ça fait partie de sa formation.
Tout à fait. Non, c'est essentiel et globalement, ça se passe bien. Franchement, pour ma part, depuis que je suis ici, j'ai assez peu de retours négatifs. J'en ai pas, à ma connaissance, mais voilà. Lorsqu'il y en a, on arrive souvent à s'expliquer au téléphone, parce que assez régulièrement, c'est quelqu'un de la sécurité qui n'a pas eu la formation, Donc on reprend les choses à la base, tranquillement. Et voilà, et on a des familles qui sont responsables, même s'il y a une saleté qui est faite pour ramasser, on a toujours des sacs avec nous, enfin bref. On sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et effectivement, on a également ce devoir de formation, mais avec les moyens qui sont les nôtres aussi, par rapport à tous les environnements qu'on peut rencontrer.
Et est-ce que toi qui as travaillé dans plusieurs écoles, donc dans plusieurs régions différentes, est-ce que tu as constaté des différences vraiment notables au niveau des refus d'accès ou de choses comme ça par rapport à Caen, notamment Paris par exemple, est-ce qu'en région parisienne c'est différent, est-ce qu'il y a plus de connaissances ou moins?
J'ai envie de croire que ça progresse. J'ai le sentiment quand même que ça progresse. Maintenant, ouais, il arrive des couacs qui aujourd'hui avec les réseaux apparaissent rapidement, très cash. Et je pense que en tout cas les bénéficiaires des déficients visuels ont raison de monter un petit peu au créneau parce que voilà, la loi 2005 a été fêtée ses 20 ans il y a quelques jours. Ça devient totalement insupportable et inadmissible d'avoir des refus qui sont stupides souvent en plus, qui sont stupides dans des magasins d'alimentation où même nous, de toute façon, on n'a même plus accès à la nourriture de façon directe. Enfin, c'est sous vide, c'est derrière des glaces et machin. Enfin, c'est... Bref. Mais je pense que on va dans le bon sens. On aurait aimé que ce soit plus rapide. On évoquera peut-être des grands sujets d'accessibilité plus tard, parce que c'est énorme et ça a été encore la cause de la colère il n'y a pas très longtemps. Mais c'est vrai que globalement, je n'ai pas trouvé vraiment de différence entre les régions. Alors peut-être qu'ici, une certaine ruralité qui amène peut-être plus de chiens, j'en sais rien. Peut-être que en ville, on supporte moins les choses parce qu'on supporte moins tout de manière générale. Donc, est-ce que l'Île-de-France est plus à marquer? Je ne sais pas. Il faudrait regarder. Il y a des, je sais que l'Amicale des maîtres de chiens guides fait des questionnements régulièrement sur les refus d'accès. J'ai pas tous les chiffres en tête, mais il y a des choses qui sont faites. Mais je ne sais plus si il y a des différences notables entre les régions. En tout cas, ici, je trouve qu'on est plutôt bien accueillis.
Merci beaucoup, Marc. En tout cas, ça va être la fin de cette première partie. On se retrouve juste après dans la seconde partie de ce podcast. Donc, la première partie, vous pouvez la retrouver dans nos réseaux sociaux, donc sur notre site internet avuedetruffe.com, sur nos pages Facebook et Instagram et sur notre toute nouvelle page LinkedIn, École de Chiens Guides, Caen Normandie, Association à Vue de Truffe.